Scudo, une sonate de Beethoven. « Que pensez-vous de Beethoven ?» demandai-je un jour à un homme d'un esprit original avec qui j'aimais à m'entretenir de l'art qui est l'objet constant de mes études. « Oh, ce que je pense de Beethoven » répondit-il en jetant sur moi un regard inquiet et soupçonneux. « Où voulez-vous en venir ?»« Mais à la question, vous l'a dit. » À connaître vos idées sur ce génie immortel, dont, malgré tant de jugements divers, il semble que le caractère soit encore méconnu. Après un long silence, dont j'avais à peine à m'expliquer la cause, « Suivez-moi, » me dit cet homme singulier. Arrivé chez lui, il ouvrit son secrétaire, prit un papier et me le remit en disant « Lisez ce brouillon, si vous pouvez, et lorsque vous l'aurez déchiffré, vous comprendrez pourquoi j'ai dû hésiter à répondre à une question qui vous paraissait toute simple. » Le brouillon que j'emportais chez moi contenait en langue italienne le récit qu'on va lire. « Il est donc vrai, vous partez, vous allez vous marier, vous quittez le doux climat où je vous ai connu, vous brisez la chaîne invisible qui, malgré les complots des méchants, nous attachaient l'un à l'autre. Vous allez disposer d'un cœur dont j'ai respiré les premiers parfums. Que la destinée s'accomplisse. Oh, je m'attendais au coup qui me frappe. Depuis longtemps, j'avais pressenti le triste réveil qui devait succéder à mon rêve de bonheur. Au milieu des rares qualités qui vous distinguent, à travers ce tissu de grâce et d'attrait qui vous enveloppe, comme d'un voile magique. Mes yeux éblouis avaient pourtant su découvrir les imperceptibles défaillances de votre riche nature. Oui, enfant adorable, que le Seigneur a illuminé d'un rayon de sa miséricorde, vous aussi vous pouvez être témoignage de la fragilité de la femme et des temps malheureux où nous vivons. Avant de recevoir mon adieu suprême, écoutez-moi, je vous en conjure. Il y aura bientôt 6 ans que j'ai reçu de vous l'aveu d'un sentiment qui avait depuis le charme et le tour de ma vie. C'était par une belle soirée d'automne, si vous vous en souvenez encore, car pour moi j'ai consigné les moindres particularités de cet instant mémorable. Vous étiez dans le petit salon de votre tante, les fenêtres ouvertes sur le parc qui encadre cette magnifique habitation. Il pouvait être 8 heures du soir. Votre tante et le reste de la compagnie se promenaient d'un côté et d'autre, respirant le frais et s'égayant à dire de ces propos aimables qui n'ont rien de précis et qui ne s'échappent de vos lèvres comme une vibration involontaire de la fantaisie. Vous étiez resté seul dans l'intérieur du château, ainsi que cela vous arrivait souvent. Vous étiez à votre piano, laissant errer vos doigts agiles et distraits sur le clavier, tandis que moi, je feignais de lire, assis à quelques pas de vous. Le soleil allait disparaître de l'horizon et nous envoyait ses derniers rayons adoucis et tremblants. Les ombres du soir descendaient lentement de la colline prochaine, et la lune, comme une vierge pudique, se dégageant péniblement du fond lumineux encore qui la contenait, s'épanouissait avec une coquetterie timide au-dessus de la forêt. Le petit salon où nous étions tous les deux était rempli de mystères et de parfums que nous apportait la brise attiédie du soir. Rien ne venait rompre le cours de notre pensée solitaire, si ce n'est quelques éclats de rire des promeneurs ou bien le sifflement mélancolique d'un bouvier traversant la grande route. L'obscurité qui gagnait peu à peu l'intérieur de l'appartement ne me laissait plus apercevoir vos tresses blondes retombant comme une gerbe de fleurs sur un cou plein de sueur invité, ni vos yeux bleus aux reflets mélancoliques, ni cette taille élégante et pleine qui semblait accuser les forces tempérées par la grâce et la volonté, épurées par l'élévation de la pensée et la chasteté du cœur. Et tout à coup, vos doigts, qui jusqu'alors avaient glissé au hasard sur les touches douces et dociles, traduisant ces vagues aperçus qu'on appelle rêverie, divin prélude de l'âme qui semble se voiler de mystère comme à l'approche du Seigneur, vos doigts se fixèrent presque involontairement sur un thème dont les notes mélancoliques et profondes me firent tressaillir. C'était la sonate pour piano en ut dièse mineur de Beethoven. Première mesure de cette composition admirable, je fus saisi comme d'un frisson douloureux. Ma tête s'inclina sur le livre qui me glissa doucement des mains. Ces longs et lugubres accords retentissaient au fond de mon âme et réveillaient les échos endormis de ma triste destinée. Et lorsque le thème, conduit par le mouvement périodique de la basse, s'élève au ton relatif de mi majeur, un rayon de lune perçant de légers nuages qui avaient contrarié son essor vint effleurer votre taille charmante et traduire en quelque sorte cette belle modulation du génie. Mon émotion s'accroissait avec le développement de cet andante qui semblait un écho des plaintes de Golgotha recueillies par l'ange de la douleur. Les larmes gagnaient insensiblement mes paupières lorsqu'à la 15e mesure, en écoutant ces notes déchirantes et cette dissonance de 7e qui exprime un profond désespoir, je ne pus contenir mes sanglots. Beethoven venait de trahir le secret de mon cœur. Ô poètes, artistes inspirés par la grâce divine, vous avez le don des miracles, vous seul possédez la science de la vie, et en chantant les peines et les plaisirs qui traversent notre âme, vous chantez la joie et la tristesse de tous. Vous aviez interprété dans une langue sublime cette immortelle inspiration dont le thème, après avoir été présenté dans le ton d'un dièse mineur, disparaît sous un réseau de modulations pénétrantes et surgit de nouveau avant d'aller expirer tristement dans la tonalité primitive. Et vous meniez avec énergie l'allegro impétueux qui en forme la seconde partie, où le délire de la passion éclate, se brise et se soulève en imprécations pathétiques qui vont échouer dans le cri suprême et désespéré. Électrisé par ce choc terrible, je fis un bond, me levant précipitamment. J'allai à la fenêtre cacher le trouble qui m'agitait. Et après quelques minutes de silence, pendant lesquelles je cherchais à ressaisir le fil de mes idées, en plongeant mon regard lustré dans les profondeurs de la nuit, vous me dites d'une voix qui trahissait aussi l'émotion que vous auriez voulu réprimer. « Qu'avez-vous, monsieur ?»« Je souffre, vous répondis-je, de la douleur de Beethoven, dont je viens d'entendre les profonds déchirements. Pauvre et sublime génie, que tu as dû verser de larmes dans ta longue agonie, qui a duré autant que ta vie. Est-ce que Beethoven a été malheureux ?» Oh, pouvez-vous en douter? Comment a-t-il pu écrire, en là et tant d'autres pages adorables que vous connaîtrez plus tard, s'il en avait trouvé la source au fond de son propre cœur? Croyez-vous donc que ce soit un vain jouet des esprits, un luxe d'imagination, qui sert d'acquis ou qu'on rejette à volonté? Un savant édifice de mensonges dont les écoles et les œuvres, livres peuvent enseigner la recette? Ah, ce sont là les détestables doctrines qu'on proclame aujourd'hui pour flatter la foule jalouse de toute volonté supérieure qui s'impose à ce respect. On voudrait bien que les acclamations confuses d'un peuple ignorant qui donne la puissance politique eussent aussi la virtualité de créer la souveraineté du génie. Mais la volonté de l'homme vient se heurter contre l'impénétrable mystère de la vie. Non, 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 mademoiselle, on ne parvient point à stimuler l'accent de la passion qu'on a jadis éprouvé. On ne touche point les hommes par l'expression factice d'un sentiment qui n'a point traversé votre cœur. Et l'art, dans sa magnificence, sa diversité de ses idées et de ses modes, est à la fois la transfiguration de la réalité et un pressentiment de nos futures destinées. Si je le craignais de passer à vos yeux pour un pédant, je vous citerai de bien grands noms, des poètes et des penseurs immortels, qui ont tous soutenu le principe de la vérité de l'art, et prouvé qu'il est impossible à l'homme de faire partager un sentiment qu'il n'a pas ressenti. Horace n'a-t-il pas dit après Aristote « Si vis me flere, dolendum est primum ipsi tibi » Et ce précepte, qui a été répété par Bétheau, par Boileau et par tous ceux qui se sont mêlés d'enseigner l'art d'écrire et de parler, n'est pas seulement une règle d'esthétique, c'est une vérité générale qui s'applique à tous les actes de la vie. Savez-vous ce que c'est qu'un sophiste? C'est un homme qui, ne croyant à rien, prêche le pour et le contre avec une égale ferveur et qui imagine, fait illusion sur l'état de son cœur et de son esprit par les froids artifices de la dialectique. Savez-vous ce que c'est qu'un rhéteur? C'est encore un artisan de paroles qui s'efforce de suppléer à l'inspiration qui lui manque par d'ingénieuses combinaisons de mots. Partout où vous verrez les machines et les procédés du métier se substituer à l'action directe de l'esprit humain, soyez certaine qu'il y a pervertissement de notre nature, abaissement de ses facultés. Les sophistes, les rhéteurs, les histrions et tous ceux enfin qui mettent des mots à la place des idées, des formes vides et des simulacres inanimés à la place des sentiments, sont dans l'ordre intellectuel ce que les hypocrites sont dans l'ordre moral. Ils mentent à la vérité des choses, ils trompent le prochain comme ils estiment de tromper le Créateur. Ce sont des faux monnayeurs qui achètent la puissance et les voluptés de la terre avec des titres falsinés. Mais leur règne est de courte durée. Dieu n'a pas voulu que l'homme puisse se passer de lui. Il a dit à la liberté comme à la mer, « Nec plus ultra ». Tu n'iras pas plus loin et tu ne franchiras pas les limites où il a plu de circonscrire le jet de ton action. Non, la volonté et ses savants artifices ne veulent pas tenir lieu de l'inspiration absente. Et c'est bien vainement que l'homme essaye de suppléer par les calculs de la pensée à la voix mystérieuse du sentiment. La vie de Beethoven est particulièrement l'histoire de la sonate que vous venez de jouer avec une émotion si pénétrante. Prouverait la vérité de ce principe bien mieux que de vagues généralités. Pourquoi, monsieur, n'auriez-vous pas la bonté de me dire Quelle est l'origine de cette sonate en ut dièse mineur que je préfère entre toutes celles que nous devons au génie vaste et profond de Beethoven? Je ne connais rien de l'existence de ce grand homme. Vous savez combien j'aime à vous entendre parler de l'art qui fait le charme de la vie. Je n'avais rien compris à la musique avant qu'une heureuse combinaison du sort vous eût amené dans ce pays. Ma tante, qui apprécie votre esprit et vos connaissances, avant qu'autant qu'elle estime votre caractère, est charmée de voir que je me plaise à vos causeries attachantes. Elle prétend que votre manière d'envisager les arts et les considérations que vous inspirent les œuvres des maîtres contiennent des préceptes aussi utiles pour la pratique de la vie que pour la formation du goût. Madame la comtesse de Narbal, votre tante, est une femme trop supérieure pour ne pas avoir senti que ce qu'on appelle vulgairement le goût est un résumé de toutes les nuances délicates de l'esprit et du cœur. Les arts, je le répète, ne font que reproduire l'idéal qui est en nous et que nous voulons réaliser sur la terre. Si les inconséquences ou les faiblesses de notre nature ne venaient y mettre obstacle, en voulez-vous un exemple? Regardez autour de vous. Voyez l'ordre et l'élégance exquise qui éclatent partout dans cette belle habitation. Tout ici accuse l'influence d'une femme d'élite qui a su donner à son existence l'harmonie qui règne dans son âme. Le goût de Madame Normal se reconnaît dans l'éducation brillante et solide qu'elle vous a donnée, mademoiselle, aussi bien que dans l'usage qu'en fait de sa fortune. La main discrète et pieuse qui se glisse furtivement dans la demeure du pauvre, les livres choisis, les gravures, les objets précieux qui ornent ses appartements, ainsi que la musique qu'on y entend et les plaisirs délicats qu'on y cultive, sont les manifestations diverses d'une noble créature de l'esprit et du cœur concourent harmonieusement au vrai but de la vie, la réalisation du beau. Ah, que de souvenirs douloureux et charmants réveillent en moi le spectacle de cet intérieur paisible où je reçois un accueil si bienveillant. Mais j'allais oublier Beethoven et la sonate en ut dièse mineur dont vous désirez connaître l'origine. Aussi bien, il est encore de bonne heure et Madame de Narbal, qui aime à prolonger ses promenades tant que l'atmosphère conserve sa douce moiteur, ne laisse plus que le temps nécessaire au récit que vous exigez de moi. Et comment pourrions-nous mieux employer les heures propices de cette nuit sereine qu'à nous entretenir du musicien sublime qui, si bien compris, les harmonies de la nature? L'auteur de la symphonie pastorale est né à Bonn le 7 décembre 1770. Son grand-père était originaire de Maastricht. Sa mère, Marie-Madeleine Kellewitsch, était de Koblenz. Et son père, Jean van Beethoven, chantait la partie de ténor à la chapelle de l'électeur de Cologne. Issu d'une pauvre famille d'artistes, Beethoven eut une enfance agitée et son éducation se ressentit de l'impétuosité de son caractère. Il apprit les éléments de la langue latine dans une école publique de sa ville natale et son père lui enseigna les principes de la musique. Il fallut le contraindre d'abord à étudier l'art qui devait immortaliser son nom. Il répugnait à s'asseoir tranquillement devant un piano et à soumettre ses mains à un exercice purement matinal. Sa résistance ne s'est pas moins vive pour l'étude du violon, dont il n'a jamais su surmonter les difficultés. Il passa ensuite, sous la direction de Pfeiffer, oboïste distingué, dont les conseils ont eu sur lui la meilleure influence sur le développement de son goût, ainsi qu'il lui plaisait de le proclamer plus tard, tandis qu'il a toujours nié avoir la moindre reconnaissance à l'organisme de la cour électorale, Niesfe, dont il reçut également des leçons. Van der Heider lui apprit à jouer de l'orgue. Cet instrument magnifique, qu'il a toujours beaucoup aimé, a dû éveiller dans son âme encore novice les sonorités puissantes et diverses qu'il a introduites dans la symphonie. Jamais grand homme n'eut plus que Beethoven le caractère de son génie, ou le génie plus conforme à de la nature de son caractère. Dès ses premières années, il révéla les inégalités maladives de son humeur misanthropique et l'insubordination glorieuse de son esprit. Il n'apprit rien comme les autres. Les déductions logiques effarouchaient cette imagination ravie du spectacle de la nature. Il restait sourd aux préceptes scolastiques, et son cœur ne s'ouvrait et ne s'emplissait d'émotions fécondes qu'en étudiant les œuvres concrètes des maîtres préférés. Il procédait par l'intuition, qui est la méthode du génie. Il aimait s'abreuver aux sources vives et, comme un oiseau du ciel, à remplir ses tromper ses ailes dans les eaux des torrents. Bach, Handel et Mozart furent ses véritables instituteurs. Il déchiffra leurs œuvres et s'en appropria les sucs inspirateurs. Il prit à l'un son harmonie âcre et sauvage, et le savant badinage de ses fugues charmantes, et au second, l'allure pleine de majesté de sa phrase mélodique, et au troisième, le rayon de sa grâce divine, dont il ressentit longtemps l'influence secrète. La jeunesse de Mozart et celle de Beethoven présentent déjà le contraste qu'on remarquera dans leur destinée. L'un doux et humble reçoit avec piété les conseils de ses maîtres et s'épanouit harmonieusement et sans douleur au sein de la famille où le nom de la béatitude couronne déjà son berceau, tandis que l'autre, inquiet et révolté, s'élève le front sillonné par l'éclair des tempêtes. Toutefois, celui qui apprit à Beethoven à parler la langue des mystères, ce fut le maître des dieux et des hommes, comme dit Platon, celui qui naquit après le chaos qu'il soumit à l'homme harmonie. Ce fut l'amour. Croiriez-vous, mademoiselle, qu'il y a des pédants qui se sont demandé sérieusement si l'auteur de la sonate en ut dièse mineure et de la symphonie en fa n'avait jamais éprouvé de tendres préoccupations. Oh, les doctes ignorants, qui s'imaginent que des hommes comme Gluck, comme Weber et Beethoven se forgent dans des ateliers de contrepoint. Pauvres critiques, que ceux-là qui n'ont jamais vu dans la musique que la science des sons, comme ils disent, et n'ont pas l'art de moduler i dolci lamenti de la passion. Il y avait dans la ville de Bonn une noble famille appelée de Breuning, où le jeune Beethoven était accueilli avec bonté. Dans cette famille, aussi distinguée par les dons de la fortune que par le goût et la culture de l'esprit, le caractère inquiet et l'imagination ardente du jeune artiste trouvaient un asile paisible. Il allait presque tous les jours, tantôt avec une composition nouvelle qu'il venait de faire entendre, tantôt avec un visage sombre et le cœur contristé par une de ces douleurs sans nom qui sont l'aliment et le privilège du génie. On l'écoutait avec bienveillance, on l'encourageait, on cherchait à dissiper les nuages qui s'élevaient de son âme troublée. On était plein d'indulgence pour les inégalités de son caractère. Et quelquefois, il disparaissait pendant des semaines entières, et lorsqu'il revenait au bercail, on le recevait sans rancune, en lui adressant seulement de tendres reproches. C'est dans l'intérieur de cette famille éclairée, dans la réunion de personnes élégantes qu'il y rencontrait, et les conversations spirituelles qui s'y engageaient, que Beethoven pulsa, puisa le goût de la société d'élite, qu'il aima toujours, à fréquenter, et les premières notions qu'il y a recueillies sur les poètes et le grand écrivain de son pays. Et parmi les personnes qui venaient habituellement dans la famille de Browning, il y avait une jeune fille blonde, vive, spirituelle, tendre et légèrement coquette, qui s'appelait Jeanne de Hondshoff. Elle était de Cologne, et plusieurs fois par an, elle venait passer quelques jours dans cette maison son amie. Mademoiselle de Hondshoff était petite, mais d'une tournure élégante, instruite, d'un caractère enjoué, fort bonne musicienne et chantant avec goût. Beethoven, qui pour Mademoiselle de Hondshoff n'était encore qu'un enfant, était cependant déjà vivement épris d'elle. Il trahissait le trouble de son cœur par des emportements qui amusaient beaucoup la charmante personne qui en était la cause, par des improvisations sur le piano qui la ravissaient, la faisaient rêver et parfois la touchaient jusqu'aux larmes. Car tel est le privilège du génie fécondé par l'amour qui fait tout oublier, les différences d'âge aussi bien que celles de rang et de fortune. Oui, quoique Mademoiselle d'Honrad fût déjà fiancée à un homme qu'elle épousa plus tard, et qu'elle eut au moins 10 ans de plus que le jeune Beethoven, elle ne pouvait pas l'entendre impunément jouer du piano, docile interprète de sa douleur ou de ses vagues espérances. L'émotion la gagnait alors, et cet enfant, qui était déjà une des plus admirables improvisateurs qui ait existé, grandissait tout à coup à ses yeux sous les feux de la passion naissante. Mademoiselle de Hondshoff était bien plus à l'aise en causant avec Beethoven, dont elle provoquait les emportements naïfs, par une raillerie galante, on aurait dit une gazelle se jouant avec un lionceau. Un jour, en quittant la maison de Browning pour se rendre à Cologne, Mademoiselle de Hondshoff fit ses adieux à son jeune amant par ces 3 vers d'une chanson connue. « Me séparer encore aujourd'hui de toi, sans pouvoir l'empêcher, c'est pour mon cœur une bien vive douleur. » Mademoiselle de Hondshoff n'en épousa pas moins un capitaine autrichien, Charles Grete, qui est mort le 15 octobre 1827, maréchal de camp et commandant propriétaire du 13e régiment de ligne. Beethoven conserva longtemps dans son cœur les traces sanglantes de ce premier amour. Quoiqu'il fût d'un âge où les enfants, ordinairement, dorment encore du sommeil de la gestation maternelle, il ressentit profondément ce qu'il appelait l'infidélité de Mademoiselle de Hondshoff, et ni les années, ni les distractions de la gloire et des nouvelles et plus fortes douceurs ne purent effacer entièrement l'image de cette jeune et gracieuse jeune fille qui, au premier jour de la vie, était venue se mirer dans son âme encore vierge. Il est si vrai que ce qui distingue les hommes supérieurs de ce troupeau de scribes et de pionniers vulgaires qui sont chargés des gros travaux de la société matérielle, c'est un cœur toujours jeune qui, comme l'oiseau fabuleux, brûle, se consume et renaît incessamment de ses cendres à peine attiédies. Les vrais poètes et les artistes prédestinés n'ont presque pas d'enfance et jamais de vieillesse. Leur âme s'épanouit comme le calice des fleurs au premier rayon de l'aurore, et la mort seule peut tarir la sève qui les agite. Michel-Ange a été amoureux jusqu'à l'âge de 80 ans d'une femme qu'il n'a jamais possédée, et Goethe, au déclin de sa longue existence, reçut les offrandes d'un cœur de 16 ans, qui devant l'immortalité du baiser que le chantre de Marguerite a posé sur son fond virginal. C'est ainsi qu'une goutte d'ambre éternise le papillon fragile. Alfieri, Byron, Canova ont tous avoué que le souvenir d'une première affection d'enfance avait survécu dans leur cœur attristé à toutes les traverses de la destinée. Alfieri dit de ses affections précoces, émotion que peu de personnes comprennent et que peu sont en état d'éprouver, mais à celle-là seulement il est donné de se faire un nom dans les beaux-arts. Toutefois, le plus grand miracle d'un amour précoce, durable et fécond que présente l'histoire, est celui de Dante. C'est à l'âge de 9 ans que l'auteur de la Divine Comédie ressentit cette terrible secousse qui devait décider sa destinée et créer l'un des plus beaux chefs-d'œuvre de l'esprit humain. Dans un petit livre intitulé Vita Nuova, qui est aussi curieux pour le philosophe qu'intéressant pour l'artiste, le poète raconte que ce fut dans le mois de mai de l'année 1276 qu'il vit pour la première fois dans une maison de Florence celle qui devint l'objet de ses rêves immortels. En apercevant cette jeune fille, qui avait quelques mois de moins que lui, il s'écria, dit-il au fond de son âme, ravi, Ecce Deus fortior me, qui veniens dominabitur mi. Voilà un Dieu plus fort que moi qui va me subjuguer. Et 9 ans plus tard, il rencontra Béatrix dans une rue de Florence, accompagnée de 2 nobles dames. Vêtue d'une robe blanche et marchant avec une distinction imposante, elle tourna la tête et fixa sur le jeune homme silencieux et tremblant ses regards piétons aussi. Et depuis cet instant suprême, et surtout depuis la mort de Béatrice, arrivée en 1290, Dante résolut de consacrer toutes ses facultés à perpétuer dans le souvenir des hommes le nom de cette femme qui, en traversant la vie, avait projeté sur lui son ombre charmante. Beethoven, dont le sombre génie a tant de rapports avec celui du premier poète italien, quitta la ville de Bonn en 1792 pour aller achever ses études musicales à Vienne, le centre où s'était développé la symphonie et tout le grand mouvement de la musique instrumentale. Il avait déjà visité la capitale de l'Autriche dans l'hiver de l'année 1786 à 1787, et il avait eu la bonne fortune d'être présenté à Mozart, qui lui prédit sa gloire. L'auteur de Don Juan, l'ayant entendu improviser sur un thème qu'il lui avait donné, fut émerveillé de la fécondité hardie de son imagination. C'est alors qu'il dit à quelques personnes qui se trouvaient présentes, « Oh, voilà un jeune homme dont vous vous entendrez parler !» Et Beethoven, qui avait en 1792 22 ans, s'était encore fait connaître que par des productions légères, des chansons, des cantates et quelques morceaux de piano où l'on remarque l'imitation presque constante de la manière de Mozart, alors il fut accueilli à Vienne avec une rare bienveillance par le docteur Van Swieten, ancien médecin particulier de l'impératrice Marie-Thérèse et grand amateur de musique. La maison du docteur Van Swieten était une sorte d'académie où se réunissaient 3 fois par semaine grand nombre d'auteurs et d'artistes éclairés pour étudier en commun les chefs-d'œuvre de l'art. C'est là que le jeune Beethoven eut l'occasion de se familiariser de plus en plus avec les divines compositions de Bach, de Handel, d'Haydn et de Mozart, sans en exclure les grands maîtres de l'école italienne, dont il remonta la chaîne jusqu'à Palestrina. Vers ce même temps, Beethoven fit aussi la connaissance du prince Lichnowsky, qui avait été l'élève de Mozart et dont la femme était la fille de ce comte de Thun, chez qui l'auteur de Don Juan et du mariage de Figaro était descendu à Prague lorsqu'il visita cette ville pour la première fois en 1786. Dans la maison du prince de Lichtovski, le jeune Beethoven rencontra la tendre sollicitude qu'il avait déjà trouvée chez la famille de Breuning. Il était traité comme un enfant de génie qui a besoin de conseils et de conspirations. Un quatuor, composé des artistes les plus célèbres qu'il eut alors à Vienne, était mis à la disposition du jeune musicien pour y exécuter les conceptions de son génie à mesure qu'elles se produisaient à la lumière. Les avis de ces hommes distingués furent très utiles à Beethoven, qui apprit ainsi à connaître la nature et le mécanisme de chaque instrument. Il reçut aussi des conseils d'Hein d'Albert Schellenberger, savant et rigide contrepointiste, qui effaroucha l'imagination ardente de son élève au lieu de l'éclairer, car il paraît que Beethoven ne trouva point dans ce dernier, ni dans le créateur de la symphonie, le maître qui l'allait à son génie, plus spontané que patient et soumis. Beethoven a souvent déclaré à ses amis dans les dernières années de sa vie que l'homme qui lui a été le plus utile pour la connaissance des procédés matériels de la composition fut Schwenk, musicien aimable, connu par un opéra qui a eu du succès, Le Barbier de Village. La Révolution française, emportant en dehors le trouble qui la dévorait, vint ravager l'Allemagne et détruire toutes les principautés charmantes qui faisaient les bords du Rhin un pays enchanté. L'électeur de Cologne fut chassé de ses états. Fils de Marie-Thérèse, Maximilien d'Autriche était un prince généreux et galant, quoique prêtre, qui avait fait de sa cour le séjour des arts et des plaisirs délicats. Protecteur du vrai mérite, il avait su apprécier le génie précoce du jeune Beethoven, qu'il avait nommé organiste de sa chapelle, en lui accordant une pension pour aller achever ses études à Vienne. La chute de l'électeur de Cologne, en privant Beethoven de sa place d'organisme et de la pension qui lui avait faite ce prince généreux, le fixa pour toujours à Vienne, où il dut chercher les moyens d'existence. Il y fut bientôt rejoint par ses deux frères, dont les misérables discussions furent pour lui une source d'amertume qui empoisonna son existence. Et vers le commencement de ce siècle, alors que Beethoven était dans la plénitude de sa vie et de ses facultés, il fut atteint de la plus horrible infirmité qui puisse affliger un musicien. Il devint sourd. Ce mal, qui commença à se faire sentir déjà en 1790, ne fit que s'accroître avec les années, et l'ignorance des médecins dont il suivit les conseils le rendit incurable. Voilà donc un compositeur, voilà un génie grandiose qui enfante tout un monde nouveau et condamné à ne jamais entendre ce qui fera le charme éternel de la postérité. Voilà un poète, grand comme Homère, grand comme Dante, Michel-Ange ou Shakespeare, dont il possède la fantaisie féconde, il ne pourra jamais pénétrer dans cette forêt enchantée qui a fait surgir d'un coup de baguette et qui remplit de sonorités mystérieuses. Vous imaginez-vous quelle dut être, alors, la douleur de ce grand homme? Un sombre désespoir s'empara de son âme. Honteux de son infirmité, qu'il n'osait avouer, il fuyait la société des hommes. Ne pouvant plus communiquer avec le monde extérieur, il se repliait sur lui-même pour écouter la seule voix qu'il put entendre, la voix de ce génie familier qui visitait Socrate et qui parle à la conscience de tous les êtres supérieurs. Dans le testament que cette Beethoven fit en 1802, et dont on a trouvé le brouillon après sa mort, on remarque ces paroles. Homme qui me croyez méchant, fou, misanthrope, vous me calomniez parce que vous ignorez la cause qui dirige mes actions. Mon cœur et ma raison étaient faits pour comprendre et goûter les douces relations de la vie. Si une affreuse infirmité que les médecins ignorants ont rendue à jamais incurable ne m'eût séparé du monde que j'aimais. Né avec un tempérament de feu et une imagination qui se plaisait au milieu de causeries aimables et d'épanchements affectueux, je suis condamné à vivre comme un proscrit. Que de pensées amères sont venues m'assaillir dans cette solitude profonde. Que de fois j'ai conçu le funeste projet de trancher violemment le fil de ma destinée. Si l'art, l'art immortel, n'eût arrêté la main homicide. Me paraissait indigne de quitter ce monde avant d'avoir accompli tout ce que je rêvais. Ô Dieu Tout-Puissant, qui vois le fond de mon cœur, tu sais que la haine et l'envie n'y ont jamais pénétré. Et vous, qui lirez ces lignes, pensez que celui qui les a écrites a fait tous ses efforts pour se rendre digne de l'estime de ses semblables. Ne dirait-on pas une page de Rousseau, une de ces pages où l'auteur de la Nouvelle Héloïse a raconté dans ses rêveries solitaires les tristesses dont son âme fut assaillie aux approches de l'heure suprême? Pourquoi Rousseau n'a-t-il pas eu la foi de Beethoven lorsqu'il laissait échapper ses paroles navrantes? Un tiède languissement énerve toutes mes facultés. L'esprit de vie s'éteint en moi par degrés. Mon âme ne s'élance plus qu'avec peine hors de la caduque enveloppe, et dans l'espérance de l'état duquel j'aspire, parce que je ne m'y sens avoir droit, je n'existerai plus que par des souvenirs. Aussi, pour me contempler moi-même avant mon déclin, il faut que je raconte au moins de quelques années au temps où, perdant tout espoir ici-bas et ne trouvant plus d'aliment pour mon cœur sur la terre, je m'accoutumais peu à peu à nourrir de sa propre substance et à chercher toute sa pâture au-dedans de moi. Beethoven, 100 fois plus malheureux que Rousseau, n'a point succombé, lui, au vertige de la solitude. Son génie l'a retenu au bord de l'abîme et lui a dit « Marche, marche, accomplis ta destinée !» Ce que le grand musicien a fait en luttant contre les souffrances physiques, contre les chagrins domestiques, contre l'envie des méchants et la défaillance intérieure. Il a ainsi traversé le monde où il a laissé une trace impérissable. Beethoven a presque toujours vécu à Vienne ou dans les environs de cette ville pittoresque. En 1809, trois amateurs distingués, l'archiduc Rodolphe, les princes de Kinski et de Lobovitz, voulant empêcher qu'un si grand musicien ne quittât l'Autriche pour aller remplir les fonctions de maître de chapelle à la cour de Jérôme Bonaparte, roi de Westphalie, se cotisèrent pour lui faire une pension de 4 000 florins, qui ne lui fut payée ni très exactement ni dans sa totalité. En 1810, il fit la connaissance de Madame Bettina d'Arnim, qui le mit en relation avec Goethe, pour lequel il professait la plus vive admiration. Ces deux grands poètes se rencontrèrent pour la première fois aux eaux de Toplitz en Bohême, dans l'été de l'année 1812. Beethoven a raconté dans une lettre très connue à Bettina la piquante anecdote où Goethe, un peu trop courtisan peut-être pour l'auteur de Faust, joue un rôle si ridicule à côté du grand compositeur qu'il n'a jamais voulu humilier son génie devant personne. « Car, dit Beethoven dans cette lettre, les rois et les princes peuvent bien créer des conseillers intimes et des titres de toute espèce, mais les hommes supérieurs sont l'œuvre de Dieu. En 1816, Beethoven eut un long procès à soutenir contre sa belle-sœur, la femme de son frère aîné, qui était mort l'année précédente, pour revendiquer la tutelle d'un neveu dont la conduite indigne a fait le tourment de ces dernières années. Pendant le congrès de Vienne en 1815, Beethoven fut l'objet des attentions les plus délicates de la part des princes coalisés, et après une longue maladie qu'il fit en 1825, miné par les chagrins domestiques, par le délaissement de l'opinion que Rossini occupait alors tout entière, usé par les secousses et la fièvre de son génie, il mourut à Vienne le 26 mars 1827, âgé de 56 ans, 3 mois et 9 jours. Beethoven était d'une forte stature qui rappelait celle de Handel et de Johnny Lee. Sa tête puissante, ses cheveux abondants et formant enracinés, son front ample, ses sourcils épais et fauves, sous lesquels on voyait luire son regard dominateur, ses traits vigoureusement dessinés comme ceux de Gluck, tout dans Beethoven annonçait la passion, la fougue et la ténacité victorieuse. Il y avait du Mirabeau dans cet homme-là, et parfois du Danton. L'auteur de Fidelio ne s'est jamais marié. Malgré son infirmité, qu'aurait exigé les soins d'une femme simple et dévouée, il ne voulut point contracter un lien qui pouvait gêner son essor et limiter le jeu de la destinée. Il aimait les hasards de la fortune, et son cœur, comme son imagination, redoutait la discipline et le joug de la foi loi admise. D'ailleurs, son caractère difficile, son tempérament nerveux, son humeur sauvage et cette mélancolie indéfinissable qui est le partage de tous les hommes supérieurs, ainsi que l'a remarqué Aristote, parce que les hommes supérieurs ont bien vite compris que cette vie n'est qu'un mirage fallacieux, toutes ces aspérités, enfin, n'en auraient pu être supportées que par une main délicate et pieuse. Beethoven recherchait la solitude où se conçoivent les grandes choses, car le bruit de la foule vulgaire effarouche la pudeur de l'âme et dissipe les idées fécondes, qui s'envolent alors comme une troupe d'oiseaux à l'approche du voyageur. Il fuyait dans les bois, dont il aimait à respirer les senteurs enivrantes et écouter le mystérieux en susurrement, ces soupirs de la nature qui semblent tressaillir sous les baisers de l'homme qui le féconde. Il a passé les trois quarts de sa vie dans les riants visages de Bade de Hessendorf qui borde la forêt de la résidence impériale de Schönbrunn. C'est sous les ombrages de cette belle forêt qu'il a composé en 1800 l'oratorio du Christ au Mont des Oliviers et en 1805 son opéra de Fidelio. Beethoven connaissait les grands poètes de tous les pays, Homère, Goethe, Schiller et surtout Shakespeare étaient ceux qu'il lisait le plus souvent. Il travaillait beaucoup, et surtout pendant les heures avancées de la nuit. Sa pensée, lente à s'améliorer, n'arrivait à son terme qu'après de nombreux tâtonnements dont ses manuscrits conservent la trace. Il y a tel ouvrage, Fidelio par exemple, qu'il a écrit en entier jusqu'à 3 fois. Le caractère de Beethoven comme celui de son génie, c'était la fierté et l'indépendance. Il ne fut jamais décoré d'aucun ordre ni revêtu d'aucun titre. Il aimait la liberté Il estimait les âmes fières comme la sienne. Et il est mort plein de foi dans le Dieu des chrétiens et dans les béatitudes d'une vie future. L'œuvre de Beethoven est l'une des plus considérables qui existent en musique. Par la diversité aussi bien que par la grandeur de ses formes, on ne peut comparer celle-ci qu'à l'œuvre de Michel-Ange ou à celle de Shakespeare. Il a traité tous les genres et écrit pour toutes sortes d'instruments, depuis le lied jusqu'à l'opéra, depuis le simple caprice de flûte jusqu'à la symphonie, où tous les dialectes et tous les styles viennent se fondre dans un tableau puissant. Quelles que soient les beautés qu'on remarque dans Fidelio, dans le Christ au Mont des Oliviers, dans la grande messe en Ré, dans les cantates et dans cette admirable ballade d'Adélaïde que vous chantez si bien, Beethoven est très inférieur à Mozart et même à Weber dans la musique vocale et dans le drame lyrique. Son génie fougueux et son inépuisable fantaisie ne pouvaient s'astreindre à respecter les limites des voies humaines dont il exigeait des efforts impossibles. Il y a des choses inexécutables, aussi bien dans sa symphonie avec cœur que dans ses cantates dans Fidelio. La surdité de Beethoven ne lui permettait pas d'ailleurs de juger par lui-même de l'effet que produisait un passage écrit dans les cordes inusitées de la voix. Un jour qu'on répétait sous sa direction l'oratorio du Christ au Mont des Oliviers, Mademoiselle Sondag et Mademoiselle Unger, qui chantaient l'une les solos de soprano et l'autre ceux de contralto, eurent avec Beethoven une discussion plaisante. Ne pouvant atteindre à certaines cordes trop élevées, elles demandèrent à l'auteur de vouloir bien les changer. « Non, pas, dit-il. Non, je vous prie de chanter exactement comme cela est écrit. J'avoue que ma musique n'est pas aussi commode à interpréter que les jolis lieux communs des messieurs les Italiens, mais je désire qu'on l'exécute telle qu'elle est. Mais si c'est impossible, maître ?»« Si, si, répondit Beethoven en secouant la tête. « Bon, vous êtes le tyran des pauvres chanteurs, » lui répliqua Mademoiselle Unger avec vivacité. Et les deux cantatrices, s'entendant comme deux larrons en foire, modifièrent sans rien dire les passages en question, laissant Beethoven dans l'ignorance de leur espièglerie. C'est dans la musique instrumentale qu'éclate la puissance et l'originalité de Beethoven. Poète lyrique, âme religieuse et profonde, imagination grandiose et charmante, il est complètement lui-même qu'au milieu de ses instruments qui parlent toutes les langues et qui reproduisent toutes les sonorités de la nature. La sonate, le concerto, le trio, le quatuor, toutes ces formes de la poésie, des sons que Bach, Haydn et Mozart semblent avoir fixés pour toujours, reçoivent de Beethoven une physionomie nouvelle. Il en agrandit le cadre et en fait des tableaux où la fantaisie la plus vagabonde se combine avec le sanglot de la douleur et l'imprécation dramatique. Oui, le caractère distinctif de la musique instrumentale de Beethoven, c'est d'avoir été conçu sous l'influence d'un sentiment réel dont elle traduit le secret et raconte les vicissitudes. Ce sont de véritables drames où la passion se développe, au milieu de toutes les richesses de l'imagination, dont elle provoque le rayonnement. On y trouve tous les accents, depuis le simple récitatif jusqu'à l'explosion pathétique du désespoir. Aussi, chacune de ses œuvres se rapporte-t-elle à l'épisode de sa vie dont elle perpétue le souvenir. C'est ainsi, par exemple, que la symphonie héroïque, la troisième, terminée en 1804, avait été conçue pour célébrer la gloire de Napoléon, en qui Beethoven avait cru voir, comme l'Europe, le génie de la liberté. La première idée de ce lugubre et magnifique poème lui avait été inspirée par le général Bernadotte, ambassadeur de la République française à la cour de Vienne. Le quatuor opéra 12, dans lequel se trouve un adagio d'une mélodie si pénétrante, fut composé dans le printemps des années 1825, après une longue maladie que fit Beethoven et dont il a consacré le souvenir par cette épigraphe « Canzone di migramento in modo liano ferta alla divinità della chitarra terra ». Et au milieu de l'œuvre colossale de Beethoven, que dominent ses 9 symphonies, les sonates pour piano, au nombre de 49, occupent une place à part. Elles sont à son génie ce que les leaders sont à celui de Goethe, expression d'un sentiment éprouvé, l'idéalisation d'un épisode de vie. Ce sont des poèmes intimes qui ont tous une histoire, dont l'amour est toujours le sujet. Beethoven n'a pas cessé un seul instant d'avoir le cœur rempli par un objet aimable. C'est parce qu'il craignait de rompre le cours de ses enchantements qu'il n'a jamais voulu se marier. En cela, je l'approuve. Il ne faut pas que l'artiste, que le poète inspiré, se laisse compromettre dans les liens de la société civile. Qu'il vive comme le prêtre, dans la solitude, dans la contemplation des choses saintes, et que de son âme, dégagée de toute solitude et servitude, puisse prêter l'oreille aux bruits qui viennent d'en haut. Plusieurs femmes distinguées, appartenant toutes à l'aristocratie, ont eu l'art de fixer l'attention de Beethoven, dont elles ont accueilli les hommages. Parmi ces femmes, on compte Madame la Comtesse Marie Erlandi, à qui il a dédié les 2 admirables trios qui portent le chiffre d'opéra 770. Cette dame, qui habitait la Hongrie, avait fait connaissance au milieu de son parc d'un petit temple où personne n'avait droit de pénétrer qu'elle, et qui était consacré au génie de son amant. Il est si vrai que la musique de Beethoven, et particulièrement ses sonates pour le piano, sont l'expression dramatique d'un sentiment éprouvé, la peinture idéale d'un fait de sa vie, qu'il avait soin de recommander à ses éditeurs de conserver à toutes ses œuvres les qualifications esthétiques qu'il leur avait données. « Ma musique, disait-il souvent, doit s'interpréter avec le cœur et non pas avec le métronome. Il faut sentir, il la faut sentir et la déclamer comme un morceau de poésie et non pas la jouer avec de simples doigts. Que celui qui ne sait pas comprendre ce que veulent dire ces mots, les adieux, l'absence et le retour, ne s'attaque jamais à la sonate opéra 81. Quel est le véritable artiste qui ne devinera pas que le largo de la 3e sonate en ré mineur est le rêve d'une âme mélancolique que rien ne fixe et ne satisfait, qui se débat au milieu d'ombres insaisissables, qui l'enveloppe et le trouble? Voulez-vous connaître l'idée fondamentale des 2 sonates, opéra 27 et 29? Lisez « La tempête de Shakespeare ». Tous les biographes de Beethoven ont divisé son œuvre en 3 catégories qui correspondent à 3 époques différentes de la vie de l'homme. Pendant la première période, qui s'étend depuis 1790 jusqu'à 1800, il imite, avec plus ou moins d'indépendance, les maîtres qui l'ont précédé, surtout Mozart, dont il a eu de la peine à repousser la Dolce Maestà. Dans la seconde phase, qui commence avec le siècle et se prolonge jusqu'en 1811, Beethoven décrit les liens qui le retenaient captif sur les bords du passé et développe les magnificences de sa propre nature. Et dans la troisième et dernière période, qui se continue jusqu'à la mort, il exagère certains procédés de facture qui trahissent plutôt le système que l'épanchement naïf d'une inspiration nouvelle. Ces trois manières, comme disent les savants, se remarquent chez tous les hommes de génie qui ne sont pas morts très jeunes, comme Tasse, Raphaël et Mozart. Elles sont la manifestation de trois grandes périodes que parcourt incessamment l'esprit humain avant d'arriver au terme fatal, la jeunesse, la maturité et la décadence. Dans la première période, l'homme prélude et s'essaie au combat de la vie sous les yeux de sa mère. Puis il s'épanouit glorieusement sous le feu des passions. Enfin, il décroît et il meurt. Ce sont là les trois âges du monde dont parlent les poètes. Pour les hommes voués au culte de la beauté, l'âge d'or, c'est l'âge de l'amour, passion sublime et sainte, qui éclate dans toute sa puissance, qui vers le milieu de Nostra Vita. Tant que la flamme scintille sur l'autel sacré, il n'y a pas d'épérissement dans les facultés créatrices de l'homme, et ses œuvres inspirées jaillissent du cœur empreintes d'une éternelle jeunesse. Gluck n'a-t-il pas composé son opéra d'Aristide, d'Armide, à l'âge de 60 ans? En voulant suppléer à la défaillance de l'amour par les savantes combinaisons de l'esprit, on s'élève peut-être dans la hiérarchie des êtres pensants, mais on décline comme artiste créateur. Car ainsi que le disaient les troubadours qui avaient conservé la tradition des doctrines platoniciennes, pour bien chanter et pour trouver, il faut aimer. Heureux, le poète heureux, l'artiste, qui ne doute pas des tempêtes et qui expire comme Raphaël, le Tasse, Mozart et Byron au sein de la fleur divine dont il avait aspiré les sucs enivrants. C'est ainsi que pensait Beethoven, qui n'a produit les plus belles œuvres de son génie que pendant l'époque bienheureuse qui s'étend de 1800 à 1810. C'est alors qu'il fit la connaissance d'une femme qui a joué un grand rôle dans sa vie et dont le souvenir traversera les âges avec les sombres et mélancoliques accords de la sonate en ut dièse mineure qui lui est dédiée. Elle s'appelait Giulietta di Guicciardi, et par l'élégance de sa personne, par sa blonde et riche chevelure et la vivacité de son esprit, elle vint raviver dans le cœur de Beethoven l'image voilée de Mademoiselle Hortmann. À vrai dire, l'homme ne saurait aimer profondément qu'un seul type de femme, dont il cherche constamment l'idéal parmi les fragments épars que lui présente la réalité. Il se passe au fond de notre cœur quelque chose de semblable à la greffe des plantes dont la vie vieille sève sert à produire des fruits nouveaux. C'est ainsi que les nouvelles affections prennent souvent racine dans les souvenirs du passé, dont elles semblent raviver les rêves évanouis. Hélas, plus que personne, je puis témoigner de la vérité de cette résurrection de mes sentiments. La passion de Beethoven pour Giulietta di Guicciardi fut des plus ardentes et paraît avoir survécu dans cette âme incessamment agitée à d'autres séductions de la fortune. Jamais il ne put oublier le nom de cette femme qui avait gouverné son cœur pendant la période la plus glorieuse de sa vie et jusqu'au moment suprême. Ses lèvres expirantes murmuraient ce nom. C'est surtout vers l'année 1806 que cette liaison semble avoir été dans sa plus grande intimité. Trois lettres de Beethoven dont on a trouvé le brouillon après sa mort nous prouvent d'une manière incontestable que ce magnifique génie était bien différent du sauvage faiseur de symphonies dont nous parlent les biographes. Ces trois lettres dont j'ai retenu les passages les plus saillants, parce que j'y trouve la confirmation de mes principes, ont été écrites pendant une absence de quelques mois que fit Beethoven. Étant allé prendre les eaux dans je ne sais plus quel village de Hongrie, il écrivait à sa Giulietta le 6 juillet 1806 « Mon ange, ma vie, mon tout, je ne puis t'adresser aujourd'hui que quelques lignes que je trace avec ton propre crayon. Pourquoi cette tristesse? L'amour n'est-il pas une loi de sacrifice? Mon cœur est rempli de ton image, que la langue est impuissante à exprimer et que j'éprouve. Console-toi, ma bien-aimée, sois-moi fidèle, et laissons aux dieux à faire le reste. Tu souffres, ma bien-aimée, et moi, si tu savais quelle vie affreuse je mène loin de toi, je ne puis pas fermer les yeux. Loin de toi, je ne suis plus qu'une ombre errante. Quand pourrais-je donc enlacer dans tes bras, m'élancer vers les sphères éternelles? Ô Dieu Tout-Puissant, pourquoi séparez-vous deux cœurs si nécessaires l'un à l'autre? Ton amour, ma Giulietta, fait le charme et le tourment de ma vie. Avec quelle anxiété j'attends le moment où je pourrai accourir auprès de toi pour ne plus nous séparer. Amour, amour, Dieu Tout-Puissant, tu es ma force, tu es la source de toute inspiration. Mais qui pourra jamais sonder l'impénétrable mystère du cœur de la femme? Quelques mois après cette correspondance, qui semble révéler les impatiences et les béatitudes d'un amour partagé, Beethoven apprend que l'objet de son culte, que celle qu'il a comblée tout récemment encore des plus vifs témoignages de tendresse, est fiancée à un homme obscur dont elle doit bientôt partager le sort. Rien ne saurait dépeindre le profond désespoir qui s'empara de ce grand homme. Il s'éloigna de Vienne alors comme un lion blessé qui porte dans ses flancs un trait empoisonné et s'en alla chercher un refuge en Hongrie auprès de sa vieille amie, la comtesse Erzsébi. Mais, ne pouvant rester en place, il disparut tout à coup du château et pendant 3 jours, il entra dans la campagne solitaire en proie à sa douleur que rien ne pouvait apaiser. Il fut trouvé gisant au bord d'un fossé par la femme du professeur de piano de la comtesse Verdi qui le ramena au château. Beethoven a avoué à cette femme qu'il avait voulu se laisser mourir de faim. Obsédé par les conseils de sa famille et surtout par les instances de sa mère, il voulait surtout que sa fille épousât un homme titré. Giulietta di Ciucardi devint la femme d'un comte de Gaillenberg, pauvre gentilhomme qu'elle avait connu avant Beethoven. Ce comte de Gaillenberg était aussi musicien, vivait exclusivement de son talent. Il a composé la musique de plusieurs ballets qui ont eu du succès. En 1822, la comtesse de Gaillenberg succombant sous le poids de ses remords, vint, les larmes aux yeux, implorer le patron de son glorieux amant, qui, après l'avoir regardé d'un air courroucé, détourna la tête sans lui répondre un mot. Le nom de cette femme, qui n'a pas su maintenir à la hauteur du serment qu'elle avait inspiré, suivra cependant à sa fragile enveloppe par la sonate en ut dièse mineur, où Beethoven a versé, comme dans un calice d'amertume, les sanglots de sa douleur. Et j'avais à peine terminé ce récit que votre main tremblante, mademoiselle, étreignant timidement la mienne, va me révéler que vous aviez pénétré le secret de mon cœur. Et l'arrivée de Madame de Narval et des personnes qui l'accompagnaient refoula brusquement dans sa source l'émotion qui nous gagnait tous les deux comme un fluide électrique. 6 ans se sont écoulés depuis cette soirée fatale, cause de tant d'événements que je ne vous rappellerai pas, et quelque temps déjà entraîné dans la nuit éternelle. Hélas, elle n'existe plus que dans mon souvenir, ces heures bienheureuses où vous chantiez à côté de moi la musique des maîtres, et surtout celle de Mozart, dont le génie mélancolique et tendre répondait si bien à la nature de vos sentiments. Vos soupirs, mêlés à ces divins accords, répandaient dans mon âme une ivresse impossible à décrire. Que sont-ils devenus les serments que vous faisiez, alors de rompre tous les obstacles qui s'opposeraient à notre amour? Hélas, ils se sont évanouis avec le fruit de vos paroles. Vous subissez la loi du destin, le monde triomphe, et vous allez aussi sacrifier la poésie du cœur à des arrangements matériels. Mais vous ne tromperez pas le Dieu Tout-Puissant qui vous a pétri de sa substance la plus pure, et vous ne trouverez pas le bonheur où l'on vous a dit de le rechercher. Non, non, les voluptés de la matière ne peuvent pas tenir lieu des béatitudes infinies du sentiment. On ne donne pas plus le change à son propre cœur qu'on ne fait l'illusion par des simulacres inanimés. Une vie sans amour, c'est une œuvre sans inspiration. Et avant de vous séparer pour toujours, permettez-moi de vous demander une grâce dernière. Parmi les heures solitaires que vous pourrez arracher à votre nouvelle existence, pendant le calme de la nuit, alors que l'âme se dégage et bruit de la terre et s'emplit du mystérieux pressentiment, vous en conjure, mettez-vous quelquefois au piano, jouez la sonate en ut dièse mineure de Beethoven, et donnez quelques larmes au souvenir d'un cœur que vous avez brisé et qui vous crie du rivage « Frédéric, Frédéric, adieu pour jamais !» Pour moi, il ne me reste plus qu'à terminer ma triste vie en chantant avec le poète que nous lisions ensemble. En vain, le jour succède au jour. Il glisse sans laisser de traces, dans mon âme rien ne s'efface, ô dernier songe de l'amour. Le récit qu'on vient de lire, dans lequel la biographie de Beethoven sert de cadre à un épisode de la vie intime, n'est pas, je l'ai dit, une fiction de ma fantaisie, ainsi qu'on pourrait être tenté de le croire. Ce n'est pas une de ces pastiches à la mode où l'histoire de l'art s'enveloppe d'une forme romanesque pour se faire mieux écouter d'un public distrait ou indifférent. J'ai peu de goût pour ce genre de littérature qui altère la vérité sans grand profit pour l'imagination. J'aime mieux aborder franchement la vie des grands maîtres et traduire aussi fidèlement que possible la poésie de leurs œuvres immortelles. Les pages qu'on vient de lire racontent un épisode vrai de la vie d'un homme qui n'a pas tout à fait inconnu des lecteurs de cette revue. On se rappellera peut-être encore le passage d'une étude sur le Don Juan de Mozart, ou à propos de l'adorable duo de la Ci dame la piano, il est fait allusion à une personne qui lui chanta devant moi. J'eus alors l'occasion de faire connaissance avec celui que la maîtresse de la liaison appelait familièrement Car Cavaliere, son doux exquis pour la musique. Ses connaissances profondes et variées sur les arts en général, et plus que tout, sa qualité d'Italien, établirent entre nous une liaison d'autant plus solide qu'elle est peut-être communicative de sa nature et qu'il accordait délicatement sa confiance dans les longs épanchements qui depuis survinrent entre nous. Frappé de l'originalité de son esprit, de l'abondance de ses souvenirs, de l'intérêt que présentaient plusieurs événements de sa vie, je lui disais souvent « Chevalier, vous devriez écrire vos mémoires. Et pourquoi donc écrirais-je ce que vous appelez mes mémoires ?» me répondait-il avec insouciance. « Je ne suis ni un homme politique, ni un artiste, ni un philosophe de profession. » pour avoir le droit d'importuner mes semblables du récit de mes escapades. Si j'avais une patrie, une famille, je pourrais du moins m'imaginer que le récit de mes interminables fantaisies pourrait intéresser un jour un cœur dévoué, et alors seulement je pourrais me décider à faire ce qui m'a toujours paru la chose la plus pénible de ce monde, m'asseoir devant une table, pour noircir au papier, mais triste débris d'un temps qui n'est plus, ne tenant plus à rien sur la terre, et ne vivant que de souvenirs intimes, à qui pourrais-je parler, si par impossible il me prenait envie de couler en bronze mes bavardages? Et vous parlerez à cet être mystérieux et tout-puissant, qui s'intéresse à tout ce qui est beau, vrai, à cet être éternellement jeune, qui est partout et qui n'oublie jamais rien de ce qui est digne de mémoire, le public. Je suis étonné, mon cher chevalier, ajoutai-je, de vous entendre professer de telles maximes, vous qui êtes un esprit éminemment religieux et qui pensez que sans l'amour et la science, sacrifice, ce monde que nous traversons serait une caverne de voleurs. Vous me battez avec mes propres armes, me répondit-il un jour, en me prenant affectueusement la main. Au fait, vous avez mille fois raison. En laissant tomber de mes lèvres les paroles dédaigneuses et amères que vous avez si justement relevées, je ne cherchais qu'un sophisme pour excuser mon incurable dégoût de tout ce qui est œuvre et prétention littéraire. La chose que j'ai toujours le plus admirée dans les annales de la Révolution française, c'est la magnifique réponse de Vergniaud à ceux qui l'accusaient de soulever par sa correspondance des provinces contre la domination de Paris. Je n'ai qu'un mot à dire pour détruire ces calomnies, répondit-il avec un dédain suprême, le grand orateur. C'est que depuis que je siège à la Convention nationale, je n'ai pas écrit une seule lettre. Oh, je n'ai pas l'éloquence du chef de la Gironde pour me permettre de pousser aussi loin que lui cette glorieuse indifférence pour les colifichets littéraires, mais je puis me vanter, au moins, de n'avoir jamais dit et écrit que des lettres tout empreintes de l'impression d'un sentiment éprouvé. Tenez, continua-t-il en ouvrant un tiroir de son secrétaire, voilà l'histoire toute palpitante de ma vie. C'étaient de nombreux paquets de lettres de toutes les grandeurs et étiquetés avec soin minutieux d'un archiviste. Voici la dernière lettre que j'ai écrite. Elle se rattache à un épisode douloureux dont vous connaissez quelques détails. Et comme il y a beaucoup question de musique, je vous autorise à la lire. J'emportais le bouillon de cette longue épître en langue italienne qui contenait le récit qu'on a lu. Et quelle est la fin de cette histoire? Demandai-je au chevalier quelques jours après. Oh, oh, me répondit-il en soupirant, c'est la fin de toute chose en ce monde. Le rêve divin s'est dissipé et a fait place à la triste réalité. Si cette histoire peut vous intéresser, je ne demande pas mieux que de vous la dire. Mais alors il faut que vous me permettiez de remonter le cours de mes souvenirs, car tout se tient et tout s'enchaîne dans mon obscure existence. Aussi bien, vous me rendrez un vrai service d'ami en écoutant avec indulgence le récit de mes divagations. Il n'y a rien de plus pénible dans la vie que d'être le seul confident de ses douleurs. Que vous êtes heureux, vous autres artistes, de pouvoir chanter vos peines comme l'oiseau sur l'avalanche flexible et de dissiper en magnifiques accords les orages de votre cœur. Chevalier, lui répondis-je, je vous remercie du témoignage de confiance que vous voulez bien me donner. Mais prenez-y garde. Vous allez parler devant un indiscret qui a de fréquentes communications avec le public. À votre aise, me dit-il en me tenant la main, je me fie à votre goût et à la délicatesse de vos sentiments. C'est dans la conversation du chevalier, dans sa nombreuse correspondance, qu'il finit par me communiquer ainsi, et dans les renseignements qui me sont venus d'autres sources, que j'ai puisé l'histoire de cet homme intéressant. J'ai redressé les dates et complété tous les passages relatifs à l'art musical, qui joue un très grand rôle dans la vie du chevalier Santi, que je raconterai un autre jour.